Chapitre 7. Clan. Le peuple des Six-Duchés a toujours eu un caractère indépendant. Le fait que le royaume demeure divisé en six régions séparées, toutes fidèles à la monarchie des loin-voyants, mais dirigées par leur propre seigneur, témoigne de cet esprit d'autonomie. Chaque duché représente l'annexion d'un territoire, généralement par voie de guerre. Souvent, le conquérant loin-voyant a fait preuve de sagesse et laissé en place une partie de l'aristocratie locale. Cela est surtout vrai en Bauge et en Béarn. L'un des avantages de cette méthode consiste en ce qu'elle adapte les lois générales à la situation particulière de chaque duché et aux coutumes séculaires de ses habitants. Illustration de cette concession à la souveraineté locale, les cités et les grandes villes, qui non seulement possèdent leurs propres milices afin d'assurer l'ordre, mais la finance grâce à un système de taxes commerciales et d'amendes pénales. Du gouvernement des Six-Duchés. De Gérepu.
Tom.
Tout d'abord, je ne réagis pas. Je m'étais abîmé si profondément que la mer elle-même ne descendait pas jusqu'à moi. Tout était obscur, et, tant que je ne bougeais pas, la douleur ne pouvait me trouver. Et puis, l'appel s'insinua peu à peu jusqu'au devant de mon esprit. On eût dit un marteau frappant mon crâne à coups sourds.
« Pas Tom !»
répondis-je, agacé.
« Va-t'en !»«
Pas Tom ?» Le soudain intérêt de devoir me poussa au bord de l'éveil. Par réflexe, je dressai mes murailles pour me protéger de la curiosité de l'adolescent. Un instant plus tard, une sensation d'inconfort extrême me priva de toute volonté et de toute énergie pour artiser. J'étais couché à plat ventre sur ce qu'il convient d'appeler une paillasse, bien qu'il n'y restât plus assez de paille pour me prémunir du froid qui montait du sol de pierre. J'étais ankylosé et glacé de la tête aux pieds, sauf en bas de mon dos, où j'éprouvais une sensation de brûlure. Quand je voulus me soulever, la souffrance m'attaqua sauvagement. Je poussai un gémissement défaillant et j'entendis un bruit de pas.
« Réveillé ?»
J'agitai vaguement une main et entr'ouvris les paupières. Pourtant faible, la lumière me fit l'effet d'une agression. Je regardai l'homme penché sur moi. Petit, mal accoutré, les cheveux hirsutes, il avait le nez et les joues rouges du buveur impénitent.
« Le guérisseur t'a raccommodé. Il a dit de te prévenir qu'il fallait remuer le moins possible. »
À mon grognement d'acquiescement, il eut un sourire malicieux.
« Mais t'as vu que t'avais pas besoin qu'on te le signale, hein ?»
Je grognai à nouveau. À présent que j'étais complètement réveillé, je mesurais l'étendue de ma douleur. Je m'interrogeais aussi sur ma situation, mais j'avais la bouche trop sèche pour parler. Le bavard près de moi paraissait assez bienveillant. Peut-être s'agissait-il de l'assistant du guérisseur. Je remuais les lèvres, puis, quand je m'en sentis le courage, j'inspirai profondément et fis d'une voix croissante
« De l'eau !»« Je vais voir ce que je peux faire »
assura-t-il. Il se dirigea vers la porte. Je le suivis des yeux et remarquai alors que la petite ouverture qui perçait le bois épais était munie de barreaux. Il cria par ce Judas.
« Hé ! Le crevard est réveillé ! Il veut de l'eau !»
S'il obtint une réponse, je ne l'entendis pas. Il s'écarta de la porte et s'assit sur un tabouret à côté de ma paillasse. Peu à peu, je percevais plus clairement mon environnement. Des murs de pierre, un broc posé dans un coin, un semis de paille sur le sol. Mon ami était mon compagnon de cellule. Avant que je pusse pousser davantage ma réflexion, il reprit.
« Alors, il paraît que tu as zigouillé trois bons hommes et un cheval. Chouette combat, je parie. » « Dommage que je l'ai pas vu. Moi aussi, je me suis battu hier soir, mais j'ai tué personne. Je me suis bagarré avec une grande perche, la figure pleine de trous, comme le grêlé. C'était pas ma faute. Je parlais peut-être un peu fort, d'accord. Mais tu sais ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit « Ferme ton clapet, c'est ce que t'as de mieux à faire. Les types comme toi, ça croit expliquer, mais ça embrouille tout. Tu ferais mieux de laisser parler les copains. » Il m'a balancé un coup de poing et je le lui ai rendu. Les gardes se sont pointés, ils m'ont embarqué et me v'là dans le même trou à rats que toi.
Non sans mal, j'acquiesçais de la tête afin d'indiquer que j'avais reçu le message. L'homme appartenait aux informateurs d'Imbre, et le vieil assassin m'ordonnait de me taire et d'attendre son intervention. Je m'interrogeais. Était-il au courant de la gravité de ma blessure ? Civil avait-il regagné le château ? Tout à coup, je me rappelais que je n'étais pas obligé de rester dans l'incertitude. Je laissai mes paupières se fermer, rassemblai mes pitoyables forces et tendis faiblement mon esprit. Devoir.
Tom, allez-vous bien ?
Son art se diffusa dans ma conscience comme l'encre dans le papier humide. Ses paroles me traversèrent et s'effacèrent alors que je tentais de les retenir. Je voulus prendre une grande inspiration pour mieux me concentrer, mais la douleur me poignit. Je respirai moins profondément, puis artisai avec hésitation. Non, l'autre vin m'a donné un coup d'épée dans le dos, et je suis en prison. Je l'ai tué, ainsi qu'un autre, nommé Paget. Dites à Imbre que j'ai vu Enya dans la foule, c'est très important. Elle n'a pas quitté pour de Castelcerf.
Oui, il le sait. Je le lui ai appris. Ce sont les derniers mots que vous m'avez transmis. En quoi est-ce important ?
Je négligeais sa question. J'en ignorais la réponse et j'en avais d'autres plus pressantes à poser. Que se passe-t-il ? Pourquoi suis-je encore ici ? Sivile est-il revenu ?
Oui, oui, il est revenu. Maintenant, écoutez-moi sans m'interrompre.
Surexcité, effrayé, l'adolescent se dominait mal, et son art claquait sur ma conscience comme des sabots affolés sur le pavé. Il craignait que je ne perde connaissance à nouveau. Je le savais.
Imbre vous demande de ne rien dire. Il travaille à monter une histoire qui tienne debout. En ville et au château, on ne parle plus que de votre affaire. On n'a pas vu de triple meurtre à Bourg de Castelcerf depuis des années, si même c'est déjà arrivé. Et c'est sous ce jour que les commérages présentent l'événement. Trop de gens vous ont vu tuer le cheval. Il sera impossible de soutenir que vous n'avez pas assassiné Lodevin et ses hommes. Du coup, Imbre cherche à fournir un motif à votre geste qui ne fasse pas de vous un meurtrier. Mais il ne peut pas descendre vous sortir de prison sans explication. Vous comprenez, n'est-ce pas ?
Je comprends. Personne ne devait pouvoir établir de rapport entre le conseiller de la reine et un garde du corps qui avait assassiné trois hommes, de rapprochement entre la souveraine et l'homme qui avait tué les délégués du lignage, de relation entre le prince et celui qui avait exécuté ses ordres. Oui, je comprenais. J'avais toujours compris. Ne vous inquiétez pas pour moi, transmis-je avec froideur. Je percevais que Devoir s'efforçait de maîtriser son angoisse, mais elle n'en imprégnait pas moins son art, et ses peurs franchissaient sa garde. Et si Imbre ne parvenait pas à trouver d'histoire cohérente ? Si Tom mourait d'infection ?
D'où s'éda ? Il les a tous tués, homme et animal. Mais qui donc est-il pour tuer ainsi ? Qui ?
Je lui fermai mes murailles pour faire taire ses craintes. De toute façon, j'étais trop épuisé pour artiser encore, et il m'avait transmis tout ce qu'il me fallait savoir pour le moment. Je sentis que je me coupais non seulement du prince, mais de tous ceux qui l'entouraient. Je m'enfermais en moi à double tour, et je ne fus plus que Tom Blaireau, domestique de Castelcerf, incarcéré, coupable d'avoir tué trois hommes et abattu un cheval de bonne race. Rien d'autre. Le garde apparut au Judas, ordonna à mon compagnon de s'éloigner de la porte, puis entra avec un seau et une louche, qu'il posa près de moi. Les yeux mi-clos, je voyais ses bottes.
« Il a l'air d'être toujours dans les pommes. »«
Il s'est réveillé une minute. Il n'a pas dit grand-chose, juste de l'eau. »«
S'il se réveille encore, appelle. Le sergent veut lui causer. »«
D'accord. Je vous préviendrai. Mais ma femme est toujours pas venue payer mon amende. Vous avez envoyé un gamin l'avertir, hein ?»«
Je t'ai déjà dit que oui, c'était hier. Si elle se pointe avec l'argent, on te laisse sortir. »
Et y aurait un moyen de bouffer ici ?
On t'a déjà donné à manger. On n'est pas dans une auberge.
Le garde sortit et la porte claqua derrière lui. J'entendis plusieurs verrous glisser dans leur logement. Mon ami s'approcha du Judas, vérifia que l'homme s'éloignait, puis revint auprès de moi.
Tu arriveras à boire ?
Sans répondre, la tête branlante, je me soulevai de la paillasse. Il porta la louche pleine à mes lèvres et je pris une gorgée d'eau avec précaution. Patiemment, accroupi, il maintint l'ustensile en place pendant que je me désaltérais. Je devais procéder avec lenteur. Jamais je ne m'étais rendu compte que boire et tenir la tête droite mettaient en jeu les muscles de mon dos. Au bout d'un moment, je me laissai retomber sur la paille et l'homme replaça la louche dans le seau. Je restai allongé, le souffle court. L'obscurité commença de rétrécir mon champ de vision, puis recula lentement.
« Il fait nuit ?»
Il fait toujours nuit en prison,
répondit-il d'un ton lugubre, et l'espace d'un instant, j'entrevis la réalité de mon compagnon, celle de quelqu'un qui a trop souvent connu la situation où nous nous trouvions. Je me demandais depuis combien de temps il travaillait pour Imbre, puis songeais qu'il ignorait sans doute qu'il l'employait pour de pareilles tâches. Il s'approcha de moi, entraînant son tabouret sous ses fesses, et dit à mi-voix.
« C'est l'après-midi. Ça fait 2 jours que tu es enfermé. Quand on m'a amené, le guérisseur s'occupait de toi. Je croyais que t'étais réveillé. Tu ne t'en souviens pas ?»«
Non. » J'y serais peut-être parvenu avec un effort, mais soudain, le cœur au bord des lèvres, j'avais la conviction qu'il valait mieux ne pas me rappeler ces moments. 2 jours. L'accablement me saisit. Si Imbre avait eu les moyens de me tirer rapidement de ce guépier, j'aurais été déjà libre. Ce séjour prolongé indiquait sans doute que je devais m'attendre à croupir encore longtemps en prison. Une pointe de souffrance interrompit violemment mes réflexions. Je m'efforçais, ensuite, de me reconcentrer. Personne n'est venu me voir ni proposer de payer mon amende. L'homme écarquilla les yeux.
« Ton amende? Mais tu as tué 3 personnes, mon vieux. On ne s'en sort pas avec une amende. »
Il s'adoucit tout à coup et, comme je me pénétrais de l'idée que je risquais la potence, il ajouta
« Si, il y a quelqu'un qui est venu quand le guérisseur a fini de te retaper. Un grand seigneur vêtu à l'étrangère avec des fanfreluches. Tu avais tourné de l'œil et les gardes voulaient pas le laisser entrer. Alors il a demandé où était passée une bourse qu'il t'avait confiée. Et quand les argousins ont répondu qu'ils n'en savaient rien, il s'est mis en rogne. Et il leur a dit de bien réfléchir parce que si on lui rendait pas son bien intact, il prendrait des mesures radicales. D'après lui, c'était une petite bourse rouge que tu portais, avec un oiseau brodé dessus, un faisan. Il n'a pas précisé ce qu'elle contenait, juste que ça avait beaucoup de valeur, que c'était à lui et qu'il voulait le récupérer.
« Sire Doré ?» demandai-je tout bas.
« Oui, c'est ça, c'est son nom. »
Je ne voyais pas du tout de quoi parlait le fou. « Je ne me rappelle pas cette bourse, » dis-je. La douleur enflait comme un mascaret. Je voulus retenir mes pensées, mais en vain. Je repoussai ma peur et découvris, caché en dessous, ma colère. Je ne méritais pas un tel sort. Pourquoi m'abandonnait-on dans cette cellule? Je risquais de mourir. Aux limites de mon esprit, je sentais devoir qui tentait maladroitement de m'atteindre. « Je suis trop fatigué, » soupirai-je. J'avais eu l'intention d'artiser, mais j'avais parlé tout haut. Ma blessure m'élançait sourdement dans la jambe, me brûlant la hanche et le genou. Toute force avait abandonné mon bras droit. Je fermais les yeux, me centrais sur moi-même et tâchais de contacter le prince. Mais les ténèbres m'engloutirent. Les jours suivants passèrent comme autant d'images aperçues à la faveur des éclairs pendant un orage. J'en garde de rares souvenirs, d'une parfaite netteté, mais si fragmentaires qu'ils en perdent presque tout sens. Un personnage, sans doute le guérisseur, examinait un fond de mon sang dans une cuvette et le décrétait trop sombre. Mon compagnon de cellule se plaignait d'un ton acerbe à quelqu'un de l'autre côté du Judas qu'il régnait une puanteur à tuer un bouc. Je regardais fixement un curieux dessin formé par des fétus de paille au sol, et j'écoutais heure agonir quelqu'un d'obscénité. L'angoisse au cœur, je formais le vœu qu'il se taise, de crainte qu'on ne le tue lui aussi. Être conscient, c'était avoir peur. Être malade, blessé, effrayé. Seul. On me laissait crever dans mon trou pour que je ne fasse pas de vagues. Le sommeil ressuscitait les vieux cauchemars d'œil de nuit où il se trouvait prisonnier d'une cage répugnante à la merci d'un gardien qui le battait. L'art est une magie qui requiert de la vigueur physique, une grande capacité de concentration et une puissante volonté. Tout cela m'avait abandonné. Des vagues d'art envoyées par devoir me heurtaient, déferlaient en moi et s'écoulaient sans laisser de résidus compréhensibles. Je savais seulement qu'il cherchait à m'atteindre et je souhaitais de toute mon âme qu'il cessât. Je n'aspirais qu'au silence et à l'immobilité pour me dissimuler de ma souffrance. Je percevais aussi parfois la présence d'Ortie. Je ne pense pas qu'elle se rendît compte qu'elle m'effleurait. Entre ces éclairs d'éveil et de sommeil hanté de cauchemars, je vivais une autre existence. Le blanc des collines arrondies par la neige tranchait sur le ciel gris. On n'y voyait nul arbre, nul buisson, pas même un rocher. Il n'y avait que la neige, le vent murmurant et le crépuscule éternel. Seule rupture dans le tapis blanc, les empreintes d'œil de nuit qui filaient devant moi. Je les suivais obstinément. Je le trouverais et je continuerais ma route avec lui. Il ne devait pas avoir beaucoup d'avance. À un moment, le vent tourna et j'entendis des loups hurler au loin. Je voulus presser le pas, et cet effort me ramena dans la puanteur glacée de la cellule de prison. Je m'étais agité, et un liquide brûlant et fétide coulait de ma plaie. Je refermais les yeux pour chercher la paix des collines enneigées. Il me fallut plusieurs semaines avant de reconstituer la trame complète des événements. On retrouva la bourse de cire dorée, avec les pierres précieuses brutes qu'elle contenait, dans la maison de Lodvin, lequel avait d'ailleurs changé d'identité en arrivant à Bourg de Castelserre. Astéry avait raison. Ses voisins connaissaient le manchot sous le nom de Kepler. Un témoin avait attesté avoir vu un homme répondant à ma description pénétrer chez Kepler à la poursuite d'un autre homme répondant à la description de Paget. À l'évidence, on m'avait dérobé la bourse de mon maître alors que je portais les pierres chez un lapidaire. J'avais pris les voleurs en chasse, ils m'avaient attaqué et je les avais tués au prix d'un grave coup d'épée dans le dos. J'avais ensuite courageusement abattu le cheval pris de folie avant qu'il n'eût le temps de se libérer de la pantie et de blesser des gens dans la rue. D'accusé et inculpé d'un triple meurtre, je me vis soudain propulsé au statut de fidèle serviteur, prêt à risquer sa vie pour la propriété de son maître. Comme nul ne se présenta pour contester cette fable, ni même demander la restitution des corps de Kepler et Paget, l'histoire devint la vérité établie à Bourg de Castelserre. Et les voisins du chevrier ne tardèrent pas à évoquer les nombreux visiteurs qui paraissaient aller et venir chez Kepler aux heures les plus indues. C'est ainsi que Sire Doré reçut enfin l'autorisation d'envoyer chercher ce qui restait de moi. Deux serviteurs se présentèrent à la prison et me chargèrent, puant et à demi-conscient, sur un brancard pour un trajet cahoteux dans le froid jusqu'au château de Castelserre. Je ne connaissais pas ces hommes et je n'offrais guère d'intérêt à leurs yeux. Chacun de leurs pas m'ébranlait jusqu'aux os, et j'en aurais pleuré si j'en avais eu la force. La douleur était telle qu'elle m'interdisait de m'évanouir. D'après les commentaires qu'ils échangeaient, les deux solides gaillards se réjouissaient de l'air froid et de l'absence de vent qui rendait plus supportable l'odeur de ma blessure suppurante. Ils me portèrent chez le seigneur Doré, qui, un mouchoir parfumé plaqué sur son nez et sa bouche, leur commanda de me déposer sur mon lit. Il les paya ensuite grassement, en les remerciant de m'avoir ramené chez moi pour me permettre de mourir dans l'obscurité de ma chambre confinée. Je fermai les yeux, décidé à suivre ce programme. Des bribes de conversation tournoyaient dans ma mémoire comme des feuilles mortes. Elles tombaient dans ma tête et l'encombraient telles des meubles inconnus entassés dans une pièce naguère familière. J'étais incapable de m'en dégager. Je me sentais retenu au milieu d'elle aussi fermement que par la main qui serrait la mienne.
« Pourrais pas le déplacer à nouveau, même si on parvenait à monter un brancard jusqu'ici. Vous devez opérer ici. »«
Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. »
C'était Devoir qui parlait.
« Elle aida, Imbre. Je n'y mets aucune mauvaise volonté. Croyez-vous que je ne le sauverais pas si j'en étais capable? Mais j'ignore comment m'y prendre. » Je ne comprends même pas précisément ce que vous me demandez. »
Il pue encore plus que du caca de chien maintenant.
L'ours s'ennuyait et aurait bien voulu s'en aller. Patiemment, Imbre réitéra ses explications.
Peu importe que vous sachiez ou non que faire, il mourra si nous n'agissons pas. Si votre tentative le tue, au moins son agonie sera plus brève que ce qu'il vit actuellement. Allons. Étudiez attentivement ses dessins. Je les ai tracés moi-même il y a bien des années. Celui-ci montre l'aspect que doivent présenter ses organes intacts. »
Je m'éloignai d'eux et sombrai un moment dans une obscurité heureuse. À l'instant où je retrouvais les collines enneigées, ils me ramenèrent brutalement. Leurs mains me touchaient, on découpait mes vêtements. Quelqu'un fut pris de haut le cœur, et Imbre, respirant à petits coups, lui ordonna de sortir et d'attendre dehors qu'on l'appelle. Des linges rêches, de l'eau tour à tour bouillante et glacée sur ma blessure, et tout près de moi, une femme déclara d'un ton accablé.
« L'infection est trop étendue. Ne peut-on le laisser partir en paix, tout simplement ?
Non.
Je crus entendre le roi subtil.
Puis je me rendis compte que c'était impossible. J'avais dû confondre la voix d'Imbre avec celle de son frère. Faites rentrer le prince. Il est temps. Les mains froides du prince se posèrent sur ma chair brûlante de part et d'autre de ma blessure.
Envoyez votre art dans son organisme, dit Imbre. Pénétrez en lui, repérez les dommages et réparez-les.
Je ne sais pas comment m'y prendre, répéta Devoir, mais je le sentis tendre sa conscience.
Son esprit cogna contre le mien, comme un papillon contre le verre d'une lampe. Il tentait d'entrer dans ma tête, non dans mon corps. Je le repoussai faiblement. Il faisait erreur. L'espace d'un instant, nos pensées se touchèrent et se connectèrent. « Non, lui dis-je, non. Laissez-moi tranquille. » Ses mains me quittèrent.
« Il refuse notre intervention, » dit Devoir d'un ton hésitant.
« Ça m'est égal !» Imbre était furieux. « Il n'a pas le droit de mourir. Je le lui interdis. »
Tout à coup, sa voix devint plus forte. Il cria dans mon oreille.
« Fitz, m'entends-tu? M'entends-tu, mon garçon? Je n'ai pas l'intention de te laisser mourir. Alors autant coopérer. Cesse de pleurer sur ton sort et bats-toi !»
Fitz, je perçus à la fois de l'étonnement et de l'horreur dans la question de Devoir. Le silence tomba une seconde, puis Imbre déclara d'un ton brusque.
« Il est né bâtard comme moi. C'est une vieille plaisanterie entre nous. Le terme ne fait mal que proféré par quelqu'un à qui il ne s'applique pas. »
J'aurais voulu répondre. Un peu faible comme explication, Imbre, et Devoir vous connaît trop pour s'y laisser tromper. On ramena mes cheveux en arrière de mon front et on me prit la main. Je supposais qu'il s'agissait du fou. J'essayais de serrer ses doigts fins pour lui faire comprendre que j'aurais aimé lui demander pardon. Puis je songeais soudain à tous ceux à qui je n'avais pas fait mes adieux. Ur, Ketriken, Murik, Molly. J'avais toujours eu l'intention d'apurer mes comptes avec chacun avant de mourir.
Patience, maman,
fis-je. Mais nul ne m'entendit. Peut-être même n'avais-je pas prononcé ces mots.
Montrez-moi votre dessin,
dit Sire Doré. Il lâcha ma main et je chus brusquement dans les ténèbres. Je tombai jusqu'à la mort. Du sommet moelleux d'une butte enneigée, j'aperçus le pays de l'été. Une tache grise et floue se déplaçait au milieu des hautes herbes.
Œil de nuit,
criai-je. Il se retourna, me regarda et me montra les dents pour m'empêcher d'avancer. Je voulus m'élancer pour le rejoindre, mais je me sentis à nouveau remonter à la surface. Je me débattis frénétiquement comme un poisson au bout d'une ligne, mais mon corps demeura immobile.
Déjà fait, du moins une opération similaire. J'étais présent quand il s'est servi de l'art pour guérir son loup. Et il y a des années, je me suis longuement intéressé au fonctionnement du corps humain. Certes, je ne possède pas l'art, mais je connais Tom. Si vous pouvez, employez l'art à travers moi. Je suis prêt à tenter l'aventure.
Le fou s'exprimait d'un ton insistant.
« J'ai envie d'aller faire pipi. »«
Très bien, lourd, mais reviens tout de suite après, tu comprends? Reviens dès que tu as fini. »
Je percevais de l'agacement dans la voix d'Imbre, et de l'hésitation aussi.
« Bah, quel mal cela peut-il faire? Allez-y, essayez. »
Alors, je sentis le fou toucher mon dos. Si les mains du prince avaient paru froides à ma peau brûlante, les doigts du fou étaient comme des glaçons qui me sondaient de leurs pointes hivernales. Toute l'éternité s'écoula dans ce contact craint et désiré à la fois. Longtemps auparavant, le fou m'avait accompagné jusque dans les montagnes, où je m'étais rendu en quête de vérité. Alors qu'il m'aidait à soigner notre souverain à bout de force, ses doigts avaient rencontré fortuitement les mains gantées d'art du roi, sur lesquelles cette manifestation physique de la magie brillait comme du vif argent. Le contact avec ce pouvoir à l'état pur avait provoqué un choc terrible chez le fou et l'avait marqué à jamais. Les macules argentées à l'extrémité de ses doigts s'étaient ternies avec le temps mais conservaient en partie leur vertu, car j'avais vu le fou s'en servir pour sculpter le bois. Elle lui permettait de connaître intimement ce qu'il touchait, bois, plante ou bête, ou moi. Il avait laissé autrefois 3 empreintes digitales sur mon poignet, et un gant recouvrait toujours la main de cire dorée pour le protéger de tout contact accidentel. Mais à présent, elle était posée sur mon dos, nue. Je sus l'instant précis où ses doigts effleurèrent ma peau. Tels de petits poignards glacés, ils plongèrent en moi, plus aigus que l'épée qui avait perforé mes entrailles. Il n'y eut ni douleur ni plaisir, mais liaison pure et simple, comme si nous occupions le même corps. Je restai immobile sous son examen, trop faible même pour trembler, tout en formant le vœu fervent qu'il n'aille pas trop loin. Mais mes craintes se révélèrent vaines. Je sentis l'honneur du fou dans ce contact, un honneur qui nous gardait l'un de l'autre comme une armure. Il sondait mon corps, non mon cœur ni mon esprit. Avec un remords aussi soudain que terrible, je mesurai alors combien mes accusations l'avaient blessé. Plus jamais il ne me demanderait rien que je ne lui eusse d'abord offert. Je l'entendis parler, et là répercuta ses paroles dans ma tête, alors même que leur son frappait mes oreilles.
Je vois les dégâts, Imbre. Les muscles ressemblent à des cordes tranchées que la tension a enroulées sur elle-même. Là où la lame s'est enfoncée, la gangrène s'est installée. Le pus s'écoule de ses viscères et le sang le charrie dans tout son organisme. L'empoisonnement ne se limite pas à sa blessure. L'infection brasille dans tout son corps comme la teinture qui se répand dans l'eau ou la pourriture qui gagne sous l'écorce d'un arbre. Il est submergé, Imbre. Le mal ne se limite pas à la plaie que lui a infligée l'épée. Il se retrouve ailleurs où ses organes tentent de le combattre et succombe au poison.
Pouvez-vous réparer les dommages? Pouvez-vous le guérir?
La voix d'Imbre me parut défaillante et voilée, mais peut-être le tonnerre des pensées du fou l'étouffait-il.
Non, je vois où se situe le mal, mais cela ne me permet pas d'intervenir. Je n'ai pas affaire à un simple morceau de bois dont je pourrais exciser les parties pourries et ne garder que les saines.
Le fou se tut, mais je sentis la lutte qu'il mena pendant ce silence. Enfin, il déclara d'un ton empreint de désespoir.
« Nous avons échoué. Il se meurt. »«
Non! Oh non! Pas mon petit, pas mon fils! Par pitié, non !»
Légère comme des feuilles d'arbre, les mains du vieil homme se posèrent sur moi. Je perçus avec quelle effrayante ferveur il désirait me sauver. Soudain, j'eus l'impression que ses mains s'enfonçaient en moi et que leur chaleur se répandait dans mes veines, brûlante comme l'alcool. Quelqu'un émit un hoquet de surprise et je sentis, oui, je sentis alors le fou unir son esprit à celui d'Imbre et ils se lièrent en moi, fragile construction d'art. La voix d'Imbre se fêla quand il s'exclama.
« Devoir, prenez ma main, prêtez-moi de l'énergie !»
Le prince se joignit à eux. Son intrusion rompit l'équilibre, et la lumière disparut dans une explosion de ténèbres.
« Allez chercher l'ours !»
cria quelqu'un. C'était désormais sans importance. Je tombais longtemps, en m'amenuisant au fur et à mesure de ma chute. J'entendais des hurlements de loups qui se rapprochaient. Tout à coup, je pris conscience d'une lumière. Elle ne dispensait aucune chaleur, mais elle était terriblement pénétrante. Je plongeai en elle et ne fis plus qu'un avec elle. J'avais l'impression qu'elle provenait de l'intérieur même de mes yeux. Je ne pouvais lui échapper. Brûlant tout, elle n'illuminait rien et je n'y voyais pas. Son éclat insoutenable s'accrut soudain et je hurlais. Tout mon corps hurla sous le coup de boutoir de la lumière qui m'envahit tout entier. J'étais un membre brisé violemment redressé. Un fleuve endigué brusquement libéré. Une chevelure emmêlée brutalement peignée. La perfection de la santé me parcourait comme une déchirure. Le traitement était pire que le mal. Mon cœur cessa de battre. Des cris affolés s'élevèrent, puis, dans un bruit de tonnerre, il se remit en marche. L'air calcina mes poumons en y pénétrant. Je connus un instant d'éveil exacerbé où je vis tout, sus tout, perçus tout. Il formait un cercle autour de moi. Le fou appuyait ses doigts argentés d'art sur mon dos. Imbre tenait sa main libre et de l'autre celle de Devoir. Devoir grippait le poignet potelé de Lourd. Et Lourd ne bougeait pas, impassible, immobile et pourtant rugissant comme un immense brasier. Les yeux d'Imbre étaient si arrondis qu'on voyait du blanc tout autour de ses iris et il découvrait ses dents en un rictus de joie. Devoir fermait les yeux, blême de terreur. Et le fou, c'était l'éclat de l'or, le bonheur et un vol de dragon scintillant dans un ciel d'azur immaculé. Il s'écria brusquement d'une voix aiguë, comme celle d'une femme.
« Assez, assez, assez! C'est trop! Nous sommes allés trop loin !»
Ils s'écartèrent de moi, et je poursuivis ma course sans eux. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je filais comme une crue subite qui dévale un ravin et emporte à la fois les débris accumulés et les arbres vivants qu'elle arrache au versant. Étais-je en train de guérir? Non. La guérison est douceur et récupération, longueur de temps. Elle n'est pas, comme je le compris soudain, l'intervention d'un homme sur un autre, mais celle de l'organisme sur lui-même, pourvu qu'on lui fournisse le temps, le repos et l'alimentation nécessaires. On aurait pu illustrer le processus dans lequel j'étais engagé par l'image d'un homme mettant le feu à ses pieds pour se réchauffer les mains. Mon corps évacuait les chairs corrompues et les fluides viciés qu'il renfermait. Mais on ne peut arracher des blocs d'un bâtiment sans les remplacer, et il faut bien prendre les nouvelles briques quelque part. Mon organisme se dépouillait lui-même. Je le sentais à l'œuvre, mais j'étais incapable de l'en empêcher. Chacun de mes organes finit par retrouver la salubrité, mais au prix de la solidité de l'ensemble. Comme un mur construit avec du mortier en quantité insuffisante, mon corps, par manque de matériaux, avait dû sacrifier sa résistance. Quand tout s'acheva et que le monde retrouva ses assises dans un grand rugissement d'orage, je regardais ceux qui m'entouraient. Et, allongé dans la bouillie de sani et de pu, que mon organisme avait rejeté, je n'eus même pas la force de cligner les yeux. Les quatre hommes qui avaient reconstruit mon corps me rendaient mon regard. Le vieillard, l'aristocrate doré, le prince et l'idiot partageaient la même expression, où l'ébahissement se mêlait à l'effroi et la satisfaction au regret. C'est ainsi que fut formé le clan de Devoir. Et je n'aurais pu imaginer pire moyen de souder cinq personnes. Depuis le groupe d'infirmes de feu croisé, on n'avait pas vu réunion d'artiseurs aussi mal assortie. Le fou ne possédait pas l'art, mais seulement les ombres argentées au bout de ses doigts et le mince fil de conscience d'art qui nous reliait, lui et moi, depuis de longues années. Chez Lourd, la magie abondait, mais le savoir lui manquait, et il n'avait nulle envie de l'acquérir. Je savais artiser, mais mon art fluctuait sans cesse, se tarissant, puis jaillissant, de façon imprévisible, inculte et inconstant. Quant à Imbre, les dieux nous viennent en aide, il découvrait son talent au déclin de sa vie. Il le maniait comme un jeune garçon, une épée en bois, sans se rendre compte du danger que représentait l'arme réelle. Il avait des connaissances, une volonté de faire, mais pas la compréhension instinctive de Lourd sur le phénomène. C'est notre prince seul, l'art s'équilibrait entre intelligence et ambition, mais il était souillé par le vif. Je contemplais l'œuvre que j'avais créée par l'unique vertu de mon agonie, et le courage m'abandonna, le beau catalyseur que je faisais. Un clan doit pouvoir prêter son énergie au souverain loin-voyant en cas de nécessité. Le mien était incapable d'opérer sans la présence du monarque. En outre, il aurait dû se fonder sur les liens de camaraderie nés du choix mutuel de ses membres. Ce que je voyais ressemblait davantage à une réunion fortuite de voyageurs dans une taverne. L'accablement que je ressentais dut transparaître sur mon visage, car Imbre s'agenouilla et prit ma main. « Tout va bien, mon garçon, » fit-il d'un ton rassurant. « Tu ne mourras pas. » Il pensait m'annoncer une bonne nouvelle, je le savais. Je fermais les yeux pour échapper à l'affreuse allégresse qui brillait dans son regard. Je dormis 4 jours et 4 nuits d'affilée. On baigna mon corps épuisé et on me vêtit sans que je m'en rendisse compte. On m'apprit plus tard que j'avais absorbé du vin et du gruau. Quelqu'un s'était chargé de ma propreté. Je n'en conserve aucun souvenir, et je m'en réjouis. Peut-être est-il exact que je bus pendant mon sommeil. On me dit qu'Astérie passa prendre de mes nouvelles à plusieurs reprises, et que Wim apporta une potion reconstituante tirée des recettes de sa grand-mère. Ni l'un ni l'autre ne fut autorisé à me voir. Je l'avoue humblement, je ne me rappelle rien de tout cela. En revanche, je revécus des scènes dont j'ignorais la présence dans ma mémoire. Je suivais une meute de loups de colline en colline. Je la regardais vivre en aspirant à me joindre à elle, mais toujours, quelque part, un fil me retenait et me remémorait qu'il me faudrait un jour emprunter le chemin du retour. J'ai gardé souvenance d'un épisode, toutefois. Une femme passa son bras autour de mes épaules, me redressa et porta une chope de lait tiède à mes lèvres. Je n'ai jamais aimé le lait tiède, et quand j'en sentis l'odeur, je voulus écarter la main, mais la femme insista. Je n'avais pas le choix. Je devais boire ou m'étrangler. La plus grande partie du liquide passa dans ma gorge. C'est seulement quand elle reposa ma tête sur mes oreillers que je reconnus la force de volonté de ma reine. J'entr'ouvris les yeux.
« Pardon, »
fis-je d'une voix croissante, alors que Ketriken essuyait le lait qui avait coulé sur le chaume de mon menton et ma chemise de nuit. Elle me sourit et je lus du soulagement dans son regard.
« C'est la première fois que vous avez la force de faire le difficile. Dois-je y voir un signe de rétablissement et de la résurrection prochaine de votre personnalité ?»
Derrière la taquinerie, je perçus la détente à laquelle elle se laissait enfin aller. Elle posa la serviette et prit mes mains entre les siennes. Je sentis mes os frotter les uns contre les autres, malgré la délicatesse de son étreinte. Décharnés, mes doigts ressemblaient à des serres. Je ne pus supporter cette vision, pas davantage que la tendresse qui embuait le regard bleu de la reine. J'observais le décor de ma chambre et fronçais les sourcils avec perplexité, car je ne le reconnaissais pas. Ketriken avait surpris mon coup d'œil.
« J'ai tout changé, » dit-elle. « Je ne pouvais tolérer de vous savoir gisant dans cette cellule nue. »
Un épais tapis montagnard couvrait le sol. J'étais couché sur un lit bas et ma reine exaltée assise en tailleur sur un coussin dodu, par terre près de moi. Dans un angle, sur des étagères en spirale étaient posées de grosses bougies parfumées qui réchauffaient et illuminaient la pièce. Un gracieux pot à eau et une cuvette occupaient le dessus d'une commode à la façade gravée. J'aperçus l'ourlet en dentelle d'un apron sous le broc de toilette. Sur une table basse, à côté de mon lit, je vis la chope vide et un bol de bouillon où nageaient des croûtons. L'arôme qui en montait me fit saliver, et Ketriken dut remarquer mon regard, car elle prit le récipient et y plongea une cuillère.
« Je crois pouvoir me débrouiller, »
fis-je précipitamment. Je voulus me redresser, et à ma grande humiliation, Ketriken dut m'aider. Ainsi, je découvris la tapisserie pendue au mur en face de moi. On l'avait nettoyée et réparée, mais un roi sagesse, exagérément étiré en hauteur, continuait de me dévisager alors qu'il traitait avec les anciens. Lisant sans doute mon saisissement sur mon visage, Ketriken sourit et dit
« Imbre pensait que vous seriez surpris et heureux de la retrouver. Pour ma part, je la trouve sinistre, mais selon lui, vous l'avez toujours appréciée. »
La tapisserie cachait le mur tout entier. Mon jugement n'avait pas varié depuis l'époque où elle décorait ma chambre d'enfant. Elle avait tout d'un cauchemar, et le vieil assassin le savait pertinemment. Malgré mon état de faiblesse, son humour rosse me fit sourire. Je protestais néanmoins.
« Mais il faut conserver, à cette pièce, l'aspect humble d'un logement de domestique. À part la taille et l'absence de fenêtres, elle ressemble à présent aux appartements d'un prince. »
Ketriken soupira.
Imbre m'en a fait le reproche lui aussi. Mais je n'ai rien voulu entendre. Il me semble déjà intolérable que vous deviez souffrir dans une chambre aussi réduite et lugubre. Je refuse d'y ajouter l'indigence et le froid.
Pourtant, vos propres appartements sont simples et dépouillés. À la mode des montagnes,
Quand vous serez assez remis pour recevoir des visiteurs, vous pourrez tout enlever, si cela vous chante. Mais pour le moment, Je vous veux confortablement installé, à la mode des six duchés. »
Elle soupira, puis poursuivit d'un ton moins âpre.
« Comme toujours, on a inventé un mensonge pour expliquer ce décor. Sire Doré tient à récompenser son serviteur de sa rectitude et de sa bravoure. Il ne vous reste plus qu'à l'accepter. »
Le ton n'admettait pas de réplique. Elle plaça des oreillers dans mon dos pour m'aider à me tenir assis, et je dégustais les croûtons imbibés de bouillon. J'en aurais volontiers mangé davantage, mais elle me prit le bol des mains en m'exhortant à une convalescence sans précipitation. La fatigue s'abattit brusquement sur moi. Je m'allongeais, terrassé d'épuisement, et en même temps stupéfait de ne ressentir aucune douleur. Et je me rendis compte soudain que j'étais étendu sur le dos. Je dus changer d'expression, car Kétriken, inquiète, me demanda ce qui n'allait pas. Je roulais sur le flanc et approchais précautionneusement ma main de ma blessure.
« Je n'ai pas mal, »
dis-je. Il n'y avait pas de pansement. Sous mes doigts, je sentis la peau intacte, puis les ressauts de mes vertèbres et mes côtes qui pointaient comme celles d'un chien famélique. Je me mis à trembler et à claquer des dents. Kétriken remonta les couvertures sur moi.
« La plaie a disparu, »
fis-je d'une voix chevrotante.
« Oui, l'entaille est close et la chair saine. Il ne reste plus aucune trace du coup d'épée. C'est une des raisons qui nous font interdire les visites. On ne manquerait pas de s'en étonner. Et on s'interrogerait aussi sur votre maigreur et votre faiblesse, comme au sortir de plusieurs semaines de maladie. »
Elle se tut. Je crus qu'elle allait poursuivre ses explications, mais non. Elle me sourit tendrement.
« Ne vous inquiétez de rien pour le moment. Vous avez besoin de vous reposer, Fitz, pas de vous ronger les sangs. Dormez, mangez, et vous serez bientôt sur pied. »
Ma reine effleura ma joue hérissée de barbe, puis lissa mes cheveux en arrière. Mille questions se pressèrent tout à coup dans mon esprit.
« Alors, est-il au courant que je vais bien ? Est-il venu me voir ? Se fait-il du souci pour moi ?
Chut ! Vous n'allez pas encore bien ? Il est venu, oui, mais nous avons jugé préférable de l'empêcher de vous voir. Sire Doré l'a reçu et lui a assuré que vous receviez les meilleurs soins et alliez vous rétablir. Il lui a confié la reconnaissance qu'il éprouvait pour vous d'avoir risqué votre vie pour défendre son bien, et il a obtenu la promesse que Heur le préviendrait si jamais il se trouvait dans le besoin pendant votre convalescence. Une femme du nom de Gina s'est présentée aussi, mais nous l'avons également refoulée.
Je comprenais la nécessité de cette attitude. Heur comme Gina serait resté stupéfait devant mon apparence. Mais j'espérais que mon garçon ne nourrissait pas trop d'inquiétude à mon égard. Brusquement, comme si une vanne s'était ouverte en moi, toutes mes autres questions m'assaillirent.
Y avait-il d'autres pieds en dehors de Lodvin et Paget ? Et Enya ? J'ai vu Enya en ville, et je ne pense pas qu'il s'agit d'une coïncidence. Et puis, j'ai cru comprendre que la mère de Civil vivait sous la menace. Imbre doit envoyer quelqu'un l'aider. Et il reste un espion au château, celui qui emmenait lourd chez Lodvin. Il faut qu'Imbre, il faut que vous vous reposiez,
dit Kétriken d'un ton ferme. D'autres s'occupent de tout cela en ce moment même.
Elle se leva d'un mouvement souple, traversa ma chambre en deux enjambées et souffla toutes les bougies. Elle en laissa une seule allumée, dont elle se munit. Je m'aperçus alors que ma reine ne portait qu'une chemise de nuit et un seau de lit. Ses cheveux tombaient dans son dos en une lourde tresse dorée.
« C'est la nuit ? »
fis-je stupidement.
« Oui, et il est très tard. Dormez à présent, Fitz. »«
Que faites-vous ici, à une heure aussi tardive ?»«
Je veille sur votre sommeil. »
Je n'y comprenais rien. C'était elle qui m'avait réveillé. Mais le pain et le lait.
J'ai envoyé mon page les quérir pour moi. Je lui ai dit que je ne parvenais pas à dormir, et c'était la vérité. Puis, je vous les ai apportés.
Elle paraissait presque sur la défensive. Tout le mal dont vous avez été victime a un résultat bénéfique.
Il m'a rappelé brutalement tout ce que je vous dois, et combien je vous estime.
Elle se tut et me regarda un instant.
« Si je vous perdais, » reprit-elle, comme à son corps défendant, « je perdrais le seul qui connaisse toute mon histoire, le seul qui, quand il me voit, sait ce que j'ai vécu avec mon roi. »
Mais Astérie était là, et Sire Doré aussi.
Elle secoua la tête. Pas de bout en bout. Et ni l'un ni l'autre ne l'aimait comme nous l'aimions. Puis, sa bougie à la main, elle se pencha et baisa mon front.
« Endormez-vous, fils chevalerie. »
Et quand elle posa ses lèvres sur les miennes, j'eus l'impression de me désaltérer longuement à une source fraîche. Et je sus que ce baiser n'était pas pour moi, mais pour l'homme qui nous manquait à tous les deux.
« Reposez-vous et reprenez vos forces, »
m'ordonna-t-elle avant de se redresser et de sortir par le passage secret. Elle avait emporté la chope et le bol, et aucune trace ne demeurait de sa présence, hormis son parfum qui flottait dans l'obscurité. Je soupirais, puis m'enfonçais dans un sommeil profond, mais presque normal.